Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue aux amateurs de sport, édition du mercredi 9 juillet. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Écoute, quand il fait beau, on n'a pas le choix, ça va bien dans ce temps-là et c'est une belle journée. Encore une fois, émission fort chargée, on est là jusqu'à 20h30 évidemment, jusqu'à l'arrivée du collègue Jérémy Filosa qui sera là. Bonsoir les sportifs ce soir, mais émission chargée, on aura la chance d'avoir Luc Brodeur-Jourdain qui sera avec nous. Il a été nommé assistant entraîneur de la ligne à l'attaque du côté des Alouettes de Montréal, donc la retraite, ça n'a pas été trop long. On a fini ça jeudi dernier face aux Tiger Cats d'Hamilton et maintenant on est entraîneur du côté de Luc Brodeur-Jourdain. On aura la chance également d'avoir Jean-Jacques Daigneault qui sera avec nous. Pourquoi? Parce qu'il a été nommé entraîneur-chef des Moussets d'Halifax, lui qui se dirigeait pour un poste d'assistant entraîneur du côté de la Ligue américaine de hockey. Eh bien, refait les valises et on s'en va du côté d'Halifax. Il sera avec nous aux alentours de 19h. Également, saviez-vous que lors de la dernière Coupe du monde chez les Dames, eh bien, une officielle québécoise était sur place. Elle était là. Elle a eu 4 matchs. Elle a participé à 4 rencontres. Comment on gère 25, 50, 60 000 personnes lorsqu'on est officiel en chef pour un match à la Coupe du Monde? Eh bien, Marie-Soleil Beaudoin sera avec nous pour nous expliquer comment ça s'est passé. Et il faut mentionner absolument la performance incroyable hier de Vladimir Guerrero Jr. qui frappe 91 circuits. Vous avez bien compris, là. 91 circuits lors du concours de circuits. Malheureusement, n'a pas gagné. C'est plutôt Alonso qui l'a emporté avec les Mets de New York. Dans la finale, Alonso a frappé 23 circuits. Guerrero en a frappé 22. Il n'a pas été en mesure de gagner ce concours, mais c'est peut-être un peu mal fait. Puis aujourd'hui, le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, parce que vous savez, hier, c'est le concours de circuit. Ce soir, c'est le match des étoiles. Donc, Manfred a assuré que personne n'est parvenu à identifier pourquoi les balles voyagent davantage. Même si plusieurs croient que Manfred et le baseball majeur ont demandé à Rawling, entre autres, de changer un peu la composition des balles, faire en sorte que les balles voyagent mieux. Mais je vous donnerai quelques chiffres, là, juste vous dire qu'on est en voie d'obtenir 6668 circuits pour l'ensemble de la saison, ce qui serait une hausse de 19 % par rapport à l'an dernier et une hausse de 9 % par rapport au record de 6105 établi en 2017. Et même, tout ça pourrait surpasser le total de 5693 circuits. Ça, c'était en 2000, à l'époque des stéroïdes. Donc, hier, quand le collègue Alex Agostino disait c'est les balles qui sont dopées, eh bien, il semblerait qu'on n'a pas trouvé ça encore du côté du baseball majeur. Mais hier, Guerrero, ce n'était pas une question de balles dopées, c'est une question d'élan. Il était en feu, malheureusement. N'a pas été en mesure de gagner. Alex Agostino sera là pour nous en parler. Maintenant, on arrive à un moment important pour l'Impact de Montréal. C'est l'ouverture du mercato. On surveille qu'est-ce qui se passe avec Nacho Piatti. On va surveiller ce qui se passe également avec Samuel Piette. Pour nous en parler, Vincent Destouches est avec nous. Salut Vincent!
Salut Jérémy!
Bon, OK. Dans un premier temps, je pense que ce serait essentiel pour nos éditeurs, assurément, d'entendre le point de presse de Rémi Garde. C'est pas très, très long. Il faut comprendre qu'on a posé des questions sur le mercato. Et surtout, on a posé la question suivante. Avec le retour progressif potentiel de Nacho Piatti, est-ce que Nacho sera là d'ici la fin de la saison? Pas tant à cause de la blessure, mais en raison d'un possible transfert. On écoute Rémi Garde.
Pour le moment, il est là. Comme tous les mercato, tous les joueurs peuvent avoir une situation qui évolue. Mais dans le cas de Nacho, moi, je compte sur lui le plus tôt possible. Les inquiétudes que j'ai pour Nacho, elles sont uniquement par rapport à sa santé, son côté athlétique et physique. Quand est-ce que je vais pouvoir compter sur lui? Honnêtement, j'ai pas d'autres inquiétudes pour l'instant.
Le fait qu'il se soit entraîné hier avec le reste des joueurs, est-ce que ça vous donne l'impression qu'on pourrait le revoir plus tôt qu'anticipé?
Comme je vous le dis souvent, on n'a rien à cacher. La preuve, c'est que vous assistez aux entraînements. Voilà, dès que ça ira mieux, dès qu'on aura la certitude qu'il est dans de bonnes dispositions, qu'il a validé toutes les étapes nécessaires à pouvoir disputer un match de MLS ou de Coupe du Canada, bien sûr que dès cet instant, on le remettra avec nous. Là, on est un peu au jour le jour, on surveille, on essaie d'élever le niveau de la demande envers Nacho, envers son genou. Et chaque fois qu'il valide une étape, c'est positif. Là, on s'approche vraiment du but ultime et j'espère que ce sera rapidement qu'il pourra être avec nous, avec l'équipe, pour un match.
On voit de plus en plus de noms circuler évidemment sur les réseaux sociaux, particulièrement en Scandinavie aussi, ce qui semblait être un point ou un endroit dans le monde où vous regardiez pas mal plus. Samuel Mraz, Lassi Lapalainen, ce sont des noms qui ont circulé. Est-ce que ce sont des noms qui sont encore dans le viseur en ce moment de l'Impact de Montréal?
Écoutez, il n'y a plus beaucoup de jours à attendre avant la fin du mercato. Donc, je ne peux pas vous dire que tout se passera au début du mercato s'il doit se passer des choses. Mais voilà, évidemment, l'Impact travaille pour essayer de voir ce qui qu'il y a de mieux, voir ce qu'on peut faire. Maintenant, vous savez qu'on est en liaison très étroite avec Bologne. C'est une volonté de la part de Joey Saputo et je trouve que c'est très bien qu'on arrive à s'appuyer sur toute leur expertise, tout ce qu'ils ont mis en place là-bas. Maintenant, ça se fait pas en un jour. Il y a du travail. Il faut que beaucoup d'étoiles soient alignées avant d'arriver dans un mercato à faire venir un joueur. Mais on y travaille fort et j'ai de l'espoir que les choses se passeront bien pendant cette intersaison.
Avez-vous rencontré messieurs Fellucci et Bigone cette semaine qui seront à Montréal?
Chaque fois qu'ils sont là, on discute, bien sûr. Oui, oui. Et même quand je suis allé à Bologne, je les ai vus, bien sûr.
OK. Coach, l'année passée, on a vu quand les négos avec Jimmy Briand ont achoppé, ça a peut-être eu un effet, disons, négatif sur l'équipe. Peut-être des performances qui se sont enchaînées, qui était peut-être pas positive. À quel point, au-delà de la qualité sur le terrain, c'est important justement que l'état-major du club envoie un bon message au vestiaire en disant « On est derrière vous, vous avez tenu le fort pendant la première moitié d'année, on est là avec vous pour la suite ».
Oui, c'est important. Bien sûr que à l'intérieur, les joueurs, le staff, on a beaucoup travaillé pendant cette saison pour obtenir les résultats qu'on a. Le club avait travaillé en avant-saison pour faire aussi du mieux possible avec les moyens, avec ce que moi j'avais souhaité d'un point de vue technique. Donc je suis pas là pour séparer la direction du club qui gère l'enveloppe budgétaire et puis le staff technique qui serait là désespérément à attendre sur une autre ligne. On est tous ensemble, on est main dans la main. Vous savez, moi je suis un entraîneur, j'ai l'habitude en interne d'exprimer les besoins et d'exprimer l'analyse technique que je fais de mon groupe, mais je suis pas là pour essayer de mettre une pression par le biais des médias ou autres réseaux sociaux ou tout ce que vous voulez sur ma direction pour dire qu'il en faut plus. Voilà, parce que c'est un mauvais message. On est tous conscients que parfois il faut faire des mouvements, il faut profiter de ces périodes-là pour tirer les analyses qui sont évidentes. Et il y en a quelques-unes qui peuvent être déjà évidentes sur les 6 premiers mois qu'on a fait. Donc après, c'est aussi, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce que les joueurs que nous, on a ciblés sont très intéressés pour venir ici ou pas? Voilà, c'est pour ça que je parle de planètes qui doivent être alignées. Il y en a un certain nombre, mais voilà, le message clair et fort, c'est que la technique et la direction du club, on travaille fort pour essayer de faire du mieux possible pour bonifier et valider la première partie de saison qui était bonne. Et c'est vrai que là, maintenant, on a besoin de valider.
Eh bien, voilà les propos de Rémi Garde aujourd'hui, justement à l'ouverture de ce mercato. Vincent Destouches est avec nous. Vincent, dans un premier temps, avant qu'on parle du mercato, le dossier Nacho Piatti. Comment vois-tu ce dossier? Est-ce que Nacho, selon toi, sera transféré?
Non, je ne crois pas. Tu sais, surtout dans les jours, les semaines qui précèdent le mercato et même pendant le mercato, j'essaie de laisser traîner une oreille un petit peu partout. Et même si pour l'instant, on ne peut rien assurer, je pense que le club lui-même ne peut rien assurer définitivement, sinon je ne vois pas pourquoi ils n'ont rien dit à ce stade-là, vu l'avalanche de rumeurs qui provient d'Argentine. Donc je pense qu'il faut quand même être précautionneux avec ce dossier-là qui est sensible, et Piatti a déjà plusieurs reprises mentionné que il détesterait pas ça, peut-être retourner en Argentine l'année prochaine. Alors s'il y a des offres qui parviennent maintenant, à quelques mois de la fin de la saison, ça peut être un peut-être, mais moi j'ai le sentiment aujourd'hui que l'Impact de Montréal travaille et est rentré dans ce mercato avec l'idée que Nacho Piatti sera encore un joueur de l'Impact de Montréal dans un mois. J'ai pas l'impression qu'on travaille à son départ ou qu'on négocie son départ. J'ai pas non plus l'impression que Nacho est en train de forcer son départ. Alors j'en reste à mon opinion que Piatti aura tout le temps et le luxe de décider qu'est-ce qu'il veut faire de son avenir pendant la saison morte, que là il y a peut-être une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre pour lui et pour l'Impact de Montréal d'aller faire quelque chose de bien en fin de saison, et qu'il va vouloir la saisir, et surtout qu'il ne partira pas comme ça, un peu comme un voleur, sans avoir décidé que le match de Los Angeles était son dernier match avec l'Impact.
Maintenant, Vincent, est-ce que la possibilité d'obtenir quand même une somme intéressante pour le transfert de Piatti pourrait titiller un brin l'Impact?
Ça pourrait, bien sûr. Ça peut toujours, surtout un président, un propriétaire, quand il y a une belle offre qui arrive, normalement, on reconsidère, ou en tout cas on commence à reconsidérer lorsque l'offre elle est satisfaisante. Si l'offre qui arrive ou les éventuels montants de transfert qui parviennent sur le bureau de Kevin Gilmour ou je ne sais qui trop à l'Impact en ce moment sont pas satisfaisantes, ils vont même pas les regarder. Mais écoute, il y a quelque chose que je veux redire, c'est que Nacho Piatti n'est pas agent libre à la fin de la saison non plus. il a une année d'option. C'est-à-dire que l'Impact peut décider d'activer une année supplémentaire pour Nacho Piatti. Et à ce moment-là, il est un joueur de l'Impact. Et si un club veut obtenir ses services, ben, il devra débourser un montant de transfert. Donc, je pense pas que c'est un « ça passe ou ça casse maintenant » comme ça a pu être le cas pour un Ambroise Oyongo par le passé. Alors, je te garantis pas qu'il y aura un montant de transfert. Peut-être que l'Impact voudra remercier Piatti pour ses services et lui fera un petit cadeau. Mais c'est pas l'opportunité unique, à mon sens, d'avoir un montant d'argent pour Piatti. Et même à ça, Jérémy, je te pose la question. Est-ce que tu vendrais les droits d'un joueur qui a été blessé deux fois au genou au prix fort, tu penses? Je pense qu'à l'heure actuelle, la cote de Piatti, elle est peut-être pas au plus haut à cause des pépins de santé qu'il a eus. Donc, c'est un pensez-y bien.
C'est un pensez-y bien. On a vu du côté de la NBA, Kevin Durant a fait la même chose, mais lui était agent libre, a signé avec Brooklyn, malgré une blessure au tendon d'Achille, mais il a quand même signé. Ce que ça veut dire, c'est que Piatti est un joueur que on reconnaît comme étant un joueur d'impact. S'il arrive en Argentine, il pourra peut-être faire la différence. Mais maintenant, c'est à savoir, est-ce que... Parce que je regarde le calendrier présentement, là, l'Impact est au quatrième rang dans la MLS, dans l'Est. Seulement, deux points à peu près de la sixième place qui pourrait permettre à l'Impact de rater encore une fois les matchs éliminatoires. J'ai l'impression que le Mercato et Piatti, c'est un cas extrêmement sérieux pour l'Impact présentement, là.
Bien sûr, c'est... C'est pour ça que, pour moi, c'est le dossier prioritaire. Tu dois, en tant que club, normalement en tout cas, tacler ce dossier-là en premier ou savoir qu'est-ce que tu veux faire parce que ça conditionne le reste. On s'entend que, ne serait-ce que financièrement, si Nacho reste, le volet financier reste un petit peu compliqué pour l'Impact de Montréal, c'est-à-dire que la situation ne change pas vraiment. Ils n'ont pas beaucoup de place sous le plafond salarial et donc ça diminue la possibilité des acquisitions pendant le mois qui vient. C'est clair. Par contre, si Nacho s'en va, là, il y a un poste de joueur désigné qui s'ouvre. Il y a quand même un sacré montant d'argent que Saputo versait à Nacho Piatti qui devient disponible et le mercato peut prendre une autre ampleur. Maintenant, moi, je n'ai pas l'impression que le club, que l'Impact de Montréal est prêt aujourd'hui à sélectionner et à faire venir le remplaçant de Piatti pour les prochaines saisons. Ça aussi, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte. Est-ce qu'on a fait le travail en amont? Est-ce qu'on est prêt dès maintenant à remplacer Nacho Piatti? Pas l'impression. Donc, on doit savoir qu'est-ce qu'on veut faire et c'est pour ça que je te disais d'entrée de jeu que le club, à mon sens, et de ce que je semble comprendre, travaille avec l'idée que Piatti sera encore là dans un mois. Donc, la situation... elle est ce qu'elle est au niveau des finances et elle conditionne un petit peu un mercato où le nombre de mouvements n'est pas forcément extraordinaire.
Maintenant, si, advenant le cas que l'Impact n'arrive pas à bouger, à aller chercher, à transférer des joueurs qui pourraient aider l'Impact pour cette dernière portion de saison, crois-tu qu'un mouvement ou un non-mouvement pourrait influencer Rémi Garde à rester ou à quitter l'Impact?
Déjà, je veux dire que l'Impact va être actif. Ça, c'est une certitude. Il y a un joueur, au moins un joueur, qui va se joindre à l'Impact de Montréal. On le sait parce que fin juin dernier, l'Impact a fait l'acquisition d'une place de joueur international dans le but de se renforcer dans le mercato. Et Joey Saputo lui-même, lors d'une conférence de presse en juin, a ouvert la porte à un renfort qui viendrait de Bologne. Et d'ailleurs, dans le point de presse de Garde qu'on a entendu un petit peu plus tôt, il était question de cela. Donc, il y aura un joueur, au moins un joueur de l'international qui va venir et qui est censé vraiment bonifier cet effectif. Par contre, au-delà de cette simple arrivée, vu la situation financière de l'Impact, j'ai l'impression que les seules autres arrivées possibles et éventuelles n'interviendraient que par le biais du marché des échanges en MLS. Donc voilà, c'est à peu près la situation de l'Impact. Moi, je pense que pour l'instant, le dossier de Rémi Garde, il est ce qu'il est. Il n'y a pas grand-chose qui filtre. Je suis vraiment pas convaincu, vu l'ampleur assez restreinte de ce mercato de l'Impact, qu'on peut lier l'avenir de Rémi Garde aux quelques arrivées ou départs qu'il va y avoir dans le mois qui vient. Je pense que ça ne se joue pas là-dessus. Mm-hmm. Donc, voilà, je te répondrai non.
OK, mais c'est parce que j'ai l'impression que Rémi Garde a été assez clair. On a besoin de renfort. Ça, il l'a dit clairement, là.
Ouais, ça, il l'a dit clairement et il attend un renfort. Et d'ailleurs, je peux te le dire, ce que cherche l'Impact de Montréal, selon ce que j'ai entendu, c'est un joueur offensif. Donc, le joueur dont on parle, le joueur qui va venir de l'international et peut-être de Bologne, c'est un joueur qui sera dans le domaine offensif. Quel poste également, exactement, je ne peux pas te le dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'on parlait d'évidence, lui parlait d'évidence, d'ailleurs, un peu plus tôt dans ses commentaires. L'évidence, c'est que l'impact est dans le dernier tiers. Quand tu regardes la production offensive, les buts marqués, qu'il y a besoin d'un coup de pouce devant. Alors devant, ça peut être ailier, ça peut être attaquant. Je doute que ce soit un numéro 10, comme beaucoup l'espèrent, parce que ça voudrait dire changer ben des choses tactiquement. Je pense pas que ce soit l'intention de garde à ce moment-ci de la saison, ni le caractère du personnage, mais on va le voir. Il y aura un renfort, il y aura peut-être même des renforts, parce que quand je te dis ça, Jérémy, c'est que si Nacho reste, Nacho qui revient, le Nacho qu'on connaît, c'est ça le plus grand renfort de l'Impact.
Clairement, parce qu'il a prouvé hors de tout doute depuis son arrivée avec l'Impact. Vincent, on va faire une courte pause, mais juste avant, j'ai une question et je veux que tu mijotes tout ça pendant la pause. Est-ce que Samuel Piette vaut 500 000 $? On fait une courte pause, écoutez les amateurs de sport sur l'ensemble du réseau Cogeco. Avant d'aller à la pause, je demandais à Vincent Destouches, est-ce que Samuel Piette vaut 500 000 $? Juste avant d'entendre sa réponse, il faut peut-être comprendre que les négociations sont entamées présentement entre l'Impact et Samuel Piette. C'est ce qu'il a dit ce matin aux journalistes.
Oui, les négociations ont commencé. Le club a déposé une première offre. Bon, après, c'est sûr que le club essaie de tirer le plus de bout de couverte possible de son côté. Puis après, comme première offre, c'est le début. Donc, c'est très rare que c'est accepté. Puis il y a un back and forth dans les négociations. Après, moi, je vais être jugé, oui, tu sais, j'ai l'aspect marketing, etc., mais moi, je vais être jugé que sur le terrain de mes performances par le club, par la ligue, donc c'est sûr qu'on va amener certains arguments. Mais de mon côté, moi, quand je regarde des joueurs à travers la ligue, parce que oui, on fait des comparatifs, quand je regarde un Trapp à Columbus, un Kellen Acosta au Colorado, même voir un Perry Ketchel au Galaxy, qui, pour moi, on a un peu un rôle similaire, même à part au niveau de nos clubs. Je vois pas pourquoi mon salaire devrait être loin de ces joueurs-là. Mais comme j'ai dit, c'est le début, donc on verra où ce que ça amène.
Justement, tu parles de comparaison, et sans toi à l'aise de répondre, mais la comparaison, tu la fais-tu poste pour poste ou des fois tu regardes aussi dans l'organigramme de l'équipe pour comparer aussi un peu qu'est-ce que tes coéquipiers font?
Mais ça c'est le premier point. Je pense qu'au début, je dois voir à travers la ligue ce qui se fait ailleurs, puis de me comparer à mon poste. Mais c'est sûr que comme je l'ai dit, il y a le niveau marketing, qu'il y a une valeur qui peut s'ajuster là. Oui, je suis un joueur de foot, mais je pense que je suis un bon ambassadeur pour le club. Du moins, c'est ce qu'on me dit. Après, oui, de regarder à l'interne, voir ce que les autres font, puis mon apport, comme j'ai dit, au sein de l'équipe, puis l'apport des autres aussi, de comparer ça. Donc, je pense qu'il y a plusieurs points. Mais comme j'ai dit, moi, en premier lieu, je vais être jugé par mes performances sur le terrain, par les stats, les chiffres ne mentent pas. Donc, je pense qu'en premier lieu, c'est vraiment d'être jugé en tant que joueur de soccer.
Samuel Piette touche présentement un salaire de 143 000 $. Il a fait référence à Will Trapp à Columbus, qui lui touche 594 000 $. Il a fait référence à Kellen Acosta au Colorado, qui lui empoche 665 000 $. Et Perry Kitchen du Galaxy touche 474 000 $. Donc, ma question, Vincent Destouches, est-ce que Samuel Piette vaut 500 000 $?
C'est une très, très intéressante question. Je te dirais, peut-être pas ailleurs en MLS, mais à Montréal, oui, parce qu'il est un joueur important et qu'il est un ambassadeur. T'sais, reprenons les choses depuis le début. T'sais, il y a plusieurs années, Jérémy, je te disais souvent, un peu à la blague, que l'Impact avait besoin d'un bulldog à trois poumons, oui, parce qu'il y avait une faiblesse historique de ce côté-là. Bah, le bulldog, c'est Samuel Piette. Et il fait très bien le bulldog, à part de ça. Mais blague à part, c'est un super bon milieu récupérateur. Et il a 24 ans, donc il est encore jeune. Il a déjà une expérience internationale très intéressante, parce qu'il a 43 sélections avec le Canada à son âge. Il n'est jamais blessé. Bref, tu sais, on peut lui reprocher, c'est vrai, et ça c'est vrai, de pas avoir beaucoup de dépassements de fonction, c'est-à-dire qu'il contribue pas assez à l'attaque. Ça, c'est sa marge de progression, mais dans son registre à lui, de milieu récupérateur, destructeur, intense, il est bon, il est très apprécié par Garde. Garde en a fait son vice-capitaine. Donc ça, c'est le côté joueur. Il voulait être jugé sur le côté joueur de soccer. Bah, il est un membre très important de l'Impact de Montréal aujourd'hui. Mais à ça, il faut que tu ajoutes le rôle d'ambassadeur. Parce qu'on va se le dire franchement, Jérémy, si Piette est pas là, quel autre joueur québécois va représenter aussi bien le club sur et en dehors du terrain?
Est-ce que l'Impact veut monnayer ça, selon toi?
Mais il le faut, parce que, c'est quoi la pire des choses que l'Impact peut faire, selon moi, en rentrant dans cette négociation, c'est d'y aller à reculons pour cette raison, de se dire « Ah, mais on n'a pas envie de payer ce côté ambassadeur, on veut payer à la juste valeur ». C'est correct, c'est pas une tare. Chaque club a besoin de joueurs emblématiques, de joueurs qui s'inscrivent dans la durée, qui signifient quelque chose de différent pour les partisans. Ça devient presque personnel. On a besoin de ces joueurs-là et c'est une vraie valeur ajoutée pour un club. Tu sais, Chouanière sera un joueur important, très très important pour l'Impact de Montréal, selon moi, à l'avenir. Mais il n'aura pas la personnalité médiatique d'un Piet. Piet, il est partout, il suscite beaucoup de sympathie et il adore faire ça de toute évidence. Et ça, ça a de la valeur. Donc je pense que oui, ça s'ajoute au salaire et que je pense que c'est une bonne chose pour l'Impact de Montréal d'avoir un Piet et qu'il faut l'assumer et l'embrasser quelque part et sécuriser ce joueur-là à son âge maintenant pour qu'il soit, pour les années, pour encore plusieurs années, un joueur majeur et emblématique de l'Impact de Montréal.
Vincent, pour que je comprenne bien, que les auditeurs comprennent, on va faire un comparatif entre Samuel Piet, entre Trapp, entre Acosta et entre Kitchen. Fais-moi la comparaison. Est-ce que Piet, sur le terrain, peut se comparer à ces joueurs-là?
Oui, il peut se comparer sur le rôle. Je peux le comparer un peu plus à Perry Kitchen, dans le sens que Kitchen est assez limité. Il est vraiment dans la dimension physique. On récupère des ballons. Il va pas vraiment au-delà de ça. Et pour l'instant, Piet ne va pas au-delà, mais on a vu en équipe nationale qu'il était capable de faire un petit peu plus. Donc, je trouve qu'il a une marge de progression intéressante. Il peut aller au-delà de que ce qu'il fait présentement et que ce Kitchen fait du côté du Galaxy. Le comparable que j'aime le plus, je pense, là-dedans, c'est celui de Will Trapp, parce qu'il y a vraiment des similarités entre les deux. Will Trapp, c'est un joueur qui est de la région de l'Ohio, qui est devenu capitaine et surtout un joueur emblématique pour Columbus, très jeune. Il est grosso modo au même poste, même s'il a un profil un peu différent d'organisateur de jeu d'une position reculée. Il a aussi de l'expérience internationale. Bref, beaucoup de similitudes avec Samuel Piet et il gagne 593 000, ou je crois que c'est ça qui a été mentionné.
594.
Voilà, ben écoute, là-dedans, il y a le fait que Will Trapp est un joueur américain, sélectionnable et qui aussi a une valeur importante dans le marché de Columbus. C'est sûr que ça a joué dans sa négociation salariale. Peut-être qu'à l'Impact de Montréal, il vaudrait moins parce qu'il n'a pas la même dimension. Et Piet, inversement, du côté de Columbus, vaudrait peut-être pas ses 593 000. Mais dans leur marché respectif, ils ont une importance qui est toute particulière. Donc voilà, moi je trouve qu'entre Kitchen et Will Trapp, il y a des comparables qui sont intéressants du point de vue soccer et extra-soccer également.
Bon, voyons la suite des choses du côté de l'Impact. Vincent Destouches, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Avec grand plaisir.
Merci énormément. Inscrivez-vous au 985fm.ca. Vous pourriez gagner une paire de billets pour l'Impact qui affronte Toronto FC. C'est samedi le 13 juillet prochain à 19h30. Félicitations à M. André Charon de Montréal qui gagne sa paire de billets. Vous savez que l'Impact va affronter York. Ça sera demain en championnat canadien et samedi contre le Toronto FC. On s'arrête quelques instants, on va s'informer. Et au retour, il a passé du poste d'entraîneur adjoint chez les Canadiens. Il se dirigeait vers un poste d'entraîneur adjoint dans la Ligue américaine de hockey. Et finalement, change de direction. On s'en va du côté d'Halifax. Jean-Jacques Daigneault sera le prochain entraîneur des Moussettes d'Halifax. Il est avec nous au retour. Merci de choisir le réseau Cogeco.